Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très très importante et un peu particulière concernant le salut. Et nous sommes à l'étude numéro 3. Le titre sera « Votre paix est-elle vraie ?» Il est dit dans Jérémie au chapitre 6, verset 14, « Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. » En allemand, c'est « Ils soignent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. » Ils disent « paix » et encore « paix », mais il n'y a point de paix. Jérémie 6, verset 14. La plus grande bénédiction que Dieu puisse accorder à une nation est de lui susciter des gens qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ avec fidélité, sincérité et droiture. Pareillement, sa plus grande malédiction est de livrer cette nation à des prédicateurs tièdes, à des aveugles plongés dans la mort spirituelle. Tous les siècles ont connu leur lot de loups, des loups qui sont déguisés sous une peau de brebis, des gens qui cherchent à calmer les consciences troublées en proclamant un message de paix que Dieu ne leur a jamais confié. Il en est du reste de même aujourd'hui. Beaucoup de prédicateurs corrompent la sainte parole de Dieu et la manipulent à leur guise. Il en était ainsi tout particulièrement au temps de Jérémie. Fidèle au Dieu dont il était le serviteur, ce prophète ne manqua pas de condamner ces faux ouvriers en public même et en toute occasion. Il rendit un puissant témoignage à celui au nom duquel il devait parler. À la lecture de sa prophétie, on constate que nul n'a condamné plus sévèrement ces prédicateurs infidèles, notamment dans le chapitre dont il est tiré notre passage. Jérémie les y accuse de cupidité. Il dit au verset 13 de Jérémie chapitre 6, « Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. » Puis il précise comment ils usent de tromperie et comment ils séduisent les pauvres âmes. Au verset 14, il dit, ils pensent, de nouveau, donc on a l'idée de soigner, à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Ils disent paix et encore paix, mais il n'y a point de paix. Verset 14. Au nom de Dieu, le prophète prédit la déroute du peuple et la dévastation du pays quand le Seigneur enverra la guerre. Je suis, dit-il, plein de la fureur de l'Éternel. Je ne puis pas la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé des jours. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes, eux aussi. Quand j'entendrai et quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Versets 11 et 12. Donc, le message du prophète résonne donc avec force afin de réveiller et d'effrayer les habitants du pays pour les amener à la conviction de péché et les inciter à se repentir. les faux prophètes et les sacrificateurs infidèles s'évertuaient à étouffer la conviction de culpabilité chez les gens. Lorsque le message du prophète touchait ou troublait quelqu'un, eh bien, ces religieux lui disaient que Jérémie n'était que un prédicateur excité et qu'il n'y aurait pas de guerre. Il disait paix et encore paix, alors que le prophète affirmait haut et fort, il n'y a point de paix. Bien que notre texte concerne surtout des événements extérieurs, il s'applique assurément aussi à l'âme. En présence de gens troublés par leurs péchés, qui commencent à regarder à Christ pour obtenir de lui le salut, les prédicateurs et les pasteurs infidèles s'efforcent d'étouffer cette conviction naissante en leur disant que tout va bien et tout va pour le mieux du monde. C'est ce que nous sommes tous enclins à croire, car notre cœur est tortueux et mauvais par nature. Jérémie 17, verset 9. Donc Dieu seul sait à quel point. Combien d'entre nous étouffent les convictions de leur cœur en disant paix, tandis qu'il n'y a pas du tout la paix autour de nous. Regardez autour de nous. Même on lâche des bombes chimiques qui brûlent les gens. Tout à l'heure, ça s'est passé. Là, vous le savez, en Syrie, combien d'hommes se confient en une fausse paix et reposent sur leur lit, comme le dit le prophète, se pensant chrétien, évidemment, et s'imaginant appartenir à Christ, pourquoi pas. Cependant, si nous regardons de près le fondement de la paix, nous trouvons qu'il s'agit d'une fabrication de Satan plutôt que d'un don de Dieu. Ce n'est pas une paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4, verset 7. Il incombe donc à chacun de sonder son propre cœur avant de parler de paix. Tout le monde désire posséder la paix avec Dieu, évidemment. C'est une bénédiction ineffable et il est impossible de vivre sans elle. Et c'est pourquoi, avant que les gens puissent s'assurer qu'ils ont la paix avec Dieu, il est quelquefois nécessaire de les enseigner ce qu'ils doivent faire et de leur expliquer clairement l'importance de l'œuvre qui doit s'effectuer en eux. C'est ce que je me propose de faire sur la base des paroles de Jérémie. Je veux, sachez, chers amis, je veux décharger mon âme, je veux me libérer du sang de ceux qui entendront ces mots. Je veux vous annoncer tout le dessein de Dieu. Premièrement, je tiens pour acquis que la religion est une affaire de cœur et une œuvre que le Saint-Esprit accomplit par sa puissance dans l'âme. Si vous ne croyez pas cela, vous haïssez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, bien que vous ayez la Sainte Bible entre les mains. Toute l'Écriture sainte présente la véritable religion comme étant une œuvre de Dieu dans le cœur. Le vrai chrétien l'est donc intérieurement. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Si vous croyez que la religion concerne essentiellement des manifestations extérieures, vous ne me comprendrez pas plus lorsque je parlerai de l'œuvre de Dieu dans le cœur d'un pécheur que si je vous parlais dans une langue étrangère. Deuxièmement, veillons également à ne pas limiter Dieu à une seule façon d'agir dans le cœur de l'homme. Tout le monde ne doit pas passer par le même degré de conviction avant d'arriver à la paix intérieure qui vient de Dieu. C'est pas pour tout le monde la même chose. Non, non, non. Dieu agit de façon diverse pour amener ses enfants à la maison. Son Esprit Saint souffle où et quand et comme il veut. Il est cependant certain qu'il faut expérimenter ce dont nous allons parler maintenant. Et ceci avant d'arriver à la paix avec Dieu, quelle que soit la durée et l'intensité de la prise de conscience de votre état de péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Avant d'avoir le cœur en paix et de se penser en règle avec Dieu, il est nécessaire de constater la réalité de ces transgressions vis-à-vis de la loi divine. Une telle prise de conscience accable l'homme au point de le faire pleurer. L'ancienne alliance, qui dépendait des œuvres de la loi, prescrivait que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. C'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, et vous avez la confirmation par Deutéronome, chapitre 27, verset 26. On ne doit pas seulement se conformer à cette loi de Dieu sur quelques points, mais il faut le faire en tout et y persévérer sans relâche. La moindre transgression, qu'elle soit en pensée, qu'elle soit en parole ou en acte, eh bien tout cela mérite la punition divine qui est d'une mort éternelle. Voyez-vous, si une seule mauvaise pensée, parole ou action mérite la punition éternelle de Dieu, demandons-nous combien mérite chacun de nous dont la vie entière n'a été qu'une rébellion continuelle contre Dieu. Ce fut mon cas pendant de très nombreuses années. Avant donc de pouvoir tranquilliser mon cœur en ce qui concerne mon état devant Dieu, il me faut saisir, voir et croire combien il est grave de lui désobéir. Sondez votre cœur donc, car vous avez commencé d'écouter avec le désir d'améliorer votre relation avec Dieu. Demandez-vous avec honnêteté s'il y a eu un jour, peut-être vous n'en savez pas la date exacte, mais ce jour existe bel et bien, où les flèches du Tout-Puissant vous ont percé l'âme de leur accusation. Avez-vous jamais été accablé au souvenir de vos péchés au point de ne plus pouvoir en supporter la pensée? Comprenez-vous que ces transgressions contre Dieu vous placent sous sa juste condamnation? Avez-vous jamais ressenti du regret à cause de vos péchés, disant « Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Psaume, chapitre 38, verset 5. C'est le roi David qui dit cela. Avez-vous jamais vu, par une telle expérience, que vous étiez séparé de Dieu? Sinon, au nom du Christ, je vous conjure de ne pas vous dire chrétien. Tranquillisez votre cœur et votre conscience, mais il n'y a point de paix. Que le Seigneur vous éveille, vous réveille, vous convertisse, et si c'est là sa sainte volonté, qu'il vous donne sa paix aujourd'hui même. Voyez-vous, le péché est un état. Il se peut cependant que vous soyez profondément conscient de la réalité de vos péchés, que vous en trembliez même, sans pour autant connaître Jésus-Christ, ni avoir expérimenté une œuvre de grâce dans votre cœur. Or, la conviction d'avoir réellement transgressé la loi de Dieu, cela ne suffit pas pour parvenir à une assurance de la paix pour votre âme. Il vous faut remonter à la source de toutes vos transgressions. De quoi s'agit-il ? Je parle ici de l'état de péché, un état de corruption dans lequel tout homme naît en ce monde et qui attire sur lui la colère de Dieu en son jugement. Nombreux sont ceux qui, tout en se considérant capables de raisonner intelligemment, prétendent que l'état de péché n'existe absolument pas. Ils accusent Dieu d'injustice quand il nous impute la transgression d'Adam. Quoique nous portions sur nous, de façon évidente, la marque de la bête et que nous soyons visiblement les enfants de Satan, eh bien ces gens continuent à prétendre que nous ne sommes pas nés dans le péché. Qu'ils regardent donc le désordre qui règne dans le monde actuellement, avant de persister à dire que c'est le paradis dans lequel Dieu a placé l'homme. Non, non, non. Voyez-vous, tout est déréglé ici-bas. En regardant en nous, nous discernons une multitude de convoitises et d'humeurs qui supposent au caractère, qui s'opposent carrément au caractère de Dieu. Je répète pour que ce soit pas mal compris. En regardant en nous-mêmes, eh bien, nous pouvons constater qu'il y a une multitude de convoitises et d'humeurs qui s'opposent totalement au caractère de Dieu. Il y a en chaque homme de l'orgueil, il y a de la méchanceté, il y a un esprit de vengeance. Ces dispositions ne viennent absolument pas de Dieu, mais de notre premier parent, Adam. Adam qui s'est rebellé contre Dieu pour se ranger aux côtés de Satan. Quand l'esprit de conviction fait son œuvre, tout raisonnement humain s'écroule sans délai, et l'homme, qui jusque-là niait son état de péché, commence à percevoir la source d'où jaillissent toutes les eaux polluées qui s'écoulent de son cœur. Une fois éveillé ou réveillé, le pécheur se demande, voyons, est-il possible que j'ai été aussi mauvais que cela ? Alors l'Esprit de Dieu approfondit son œuvre pour lui montrer qu'il n'y a rien de bon en lui. Cet homme comprend qu'il est entièrement perverti et coupable devant Dieu. Le même esprit l'amène à se prosterner devant le trône divin, reconnaissant que le Seigneur serait juste de le condamner sans appel, quand bien même il n'aurait jamais commis un seul acte de péché de toute sa vie. Avez-vous jamais connu le point où vous reconnaissez que vous êtes par nature un enfant de colère, où vous voyez que Dieu serait juste de vous retrancher, même si vous ne l'aviez jamais offensé par un seul acte? Si vous avez expérimenté la véritable conviction de péché, si votre cœur a véritablement été percé par les flèches du Saint-Esprit, si votre moi a vraiment été terrassé, eh bien vous aurez vu et vous aurez ressenti une telle conviction. Si vous n'avez jamais senti le fardeau de votre état de péché, ne vous dites pas chrétien, mais dites-vous que vous êtes un pseudo-chrétien comme je l'ai été moi-même. C'est certainement le plus grand poids qui pèse sur l'âme convertie, ce qui l'afflige plus que toute autre chose. La présence du péché dans son cœur et l'affliction de l'enfant de Dieu, du vrai chrétien, il s'écrie sans cesse, « Oui, 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 qui me délivrera du corps de cette mort, de cette corruption qui persiste dans mon cœur ?» Vous n'êtes pas conscient, dites-vous, de cette corruption intérieure. Si cet état de péché existe vraiment, vous n'avez encore jamais reconnu que Dieu serait juste de vous condamner sans appel. Alors même si vous parlez de paix à votre conscience, il est à craindre qu'il n'y a pas pour vous de véritable paix avec Dieu. C'est même, à mon avis, une certitude. Avant de penser d'être en règle avec Dieu, il est impératif d'être troublé à cause des péchés présents dans ma vie et du péché qui caractérise ma nature. Il est tout aussi indispensable de reconnaître que le péché souille même mes actions les meilleures. Lorsque quelqu'un prend conscience dans une certaine mesure de son état de perdition devant Dieu, ayant été créé pour obéir à la volonté divine, eh bien cette personne se réfugie immédiatement dans ses propres efforts et dans sa pratique de la loi de Dieu. Comme Adam et Ève, ils se sont cachés, rappelez-vous, ils se sont cachés parmi les arbres du jardin, après s'être fabriqués des ceintures de feuilles, pour cacher leur nudité. Le pauvre pécheur réveillé à son état de péché se réfugie dans ses bonnes œuvres pour se cacher de Dieu et pour se créer une propre justice. « Je vais me réformer, dit-il, je vais changer de conduite » et je vais faire de mon mieux pour être enfin plus ou moins bon. Certainement, Jésus-Christ sera miséricordieux envers moi. Mais avant que je puisse me dire en paix avec Dieu, je dois tout de même comprendre qu'il pourrait me condamner pour la meilleure prière que je lui ai jamais offerte. Je dois saisir que tous mes propres efforts réunis, toute ma justice, comme nous dit Esaïe, loin de me recommander à Dieu, sont à ses yeux comme des chiffons répugnants, est-il dit au chapitre 64, verset 5 de Esaïe. Loin de l'inciter à la miséricorde envers moi, il déteste ces choses et ne peut pas les supporter quand je les lui apporte pour me recommander auprès de lui. Quel mérite, chers amis, mes efforts peuvent-ils me valoir auprès de Dieu, je vous le demande. De par ma nature pécheresse, je suis tout entier souillé par le péché et je suis coupable devant lui. Je mérite mille fois sa juste condamnation. Qu'en sera-t-il donc de mes efforts? Ma nature corrompue m'empêche d'agir d'une manière qui soit agréable à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Notez Romains chapitre 8, verset 8. Car, voyez-vous, le péché entache absolument tout. Multipliez les actions que les hommes qualifient de bonnes, mais vous êtes absolument incapables de faire quoi que ce soit qui soit essentiellement bon et qui plaise à Dieu. Il vous est impossible d'agir contre votre propre nature. Un homme qui n'est pas passé par la conversion ne peut rien faire à la gloire de Dieu. Il ne peut rien faire par la foi qu'il ne possède absolument pas. Or, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Romains chapitre 14, verset 23. Même après que j'ai été renouvelé, eh bien le péché demeure en moi et continue de se mêler à tout ce que je fais, même après que Jésus m'a racheté. Je n'en suis jamais entièrement libéré, et ceci aussi longtemps que je vis dans la chair. C'est donc pourquoi, si Dieu regardait uniquement à mes œuvres, même après la conversion, je ne pourrais jamais être justifié devant lui sur cette base-là. Avant de connaître vraiment la paix avec Dieu, il me faut être dégoûté de mon état de péché, de mes actions pécheresses, ainsi que de ma propre justice et de mes soi-disant bonnes actions. C'est par une profonde conviction de cette réalité que je serai libéré enfin de ma propre justice, la dernière idole à arracher de mon cœur. Voyez-vous, l'orgueil de mon cœur, elle m'interdit de me soumettre à la justice de Jésus-Christ. Personne ne viendra à Christ pour être sauvé à moins de prendre conscience de l'absence en soi de toute justice qui a été propre et de l'inutilité de ses efforts pour se justifier devant Dieu. Évidemment, beaucoup diront, je crois tout cela, bien sûr, mais il y a une grande différence entre les paroles et entre la réalité. Avez-vous jamais ressenti votre besoin d'un sauveur parce que vous aviez conscience de l'imperfection de votre propre justice? Pouvez-vous dire du fond de votre cœur, ô Seigneur, tu serais juste de me condamner éternellement pour la meilleure action que j'ai jamais accomplie? Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez beau essayer de tranquilliser votre conscience et de vous dire en être en règle avec Dieu, il n'y a point de paix entre vous et votre Créateur. Donc, ce péché doit encore peser lourdement sur votre conscience avant que vous puissiez goûter la véritable paix avec Dieu. Il prédomine et il règne dans le monde christianisé. On n'y pense presque jamais pourtant. Qu'est-ce à dire tout cela? Oserait-on soutenir que parmi ceux qui participent au sacrement de leur Église, qui prient et qui lisent la Sainte Bible, il y en ait qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ? Manquerais-je de beaucoup de charité en mettant en question la réalité de votre foi en Christ? Je suis persuadé cependant que si nous pouvions aller au fond des choses, nous découvririons que la plupart de ceux qui vont à l'église n'ont pas autant de foi en Christ que le diable lui-même. Je suis convaincu que Satan croit la Sainte Bible beaucoup plus que la plupart de ceux qui professent être chrétiens. Il croit en la divinité de Christ, alors que beaucoup de soi-disant chrétiens ne peuvent pas en dire autant. Bien plus, il tremble, selon Jacques, chapitre 2, verset 19, ce que des milliers dans les églises ne peuvent pas dire. On confond très souvent une foi dans les faits avec la véritable foi, c'est-à-dire celle qui vient d'une œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. Vous pensez avoir la foi à salut simplement parce que vous croyez en l'existence de la Sainte Bible et que vous fréquentez votre Église. Or, tout ceci n'implique pas la foi véritable en Christ. Croire que la Sainte Bible est la Sainte Parole de Dieu et que Christ a vécu dans ce monde ne vous fera pas plus de bien que de croire qu'il y a autrefois eu un nommé César ou un Alexandre le Grand. La Sainte Bible est en effet la Sainte Parole de Dieu, que Dieu en soit loué. Mais il est possible de la posséder, il est possible de la lire sans pour autant croire au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, il faut pour cela que le Saint-Esprit œuvre dans le cœur pour créer un nouveau principe. Si je vous demandais depuis combien de temps vous croyez en Christ, la plupart d'entre vous me diraient probablement qu'ils ne se souviennent pas du moment où ils ne croyaient pas. En fait, vous ne pourriez me fournir une meilleure preuve de ne pas avoir encore cru, à moins d'avoir expérimenté cette œuvre du Saint-Esprit très jeune. Quiconque croit réellement en Christ sait absolument qu'il fut un temps où ce n'était pas le cas. Vous dites aimer Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Mais depuis combien de temps? Depuis toujours, répondez-vous? Ou vous répondez, je ne me souviens pas qu'un temps où je ne l'aimais pas, je ne l'ai jamais haï, Dieu. Je ne peux pas penser à un temps où l'inimitié contre Dieu résidait dans mon cœur. Alors permettez-moi de vous dire que vous ne l'avez peut-être jamais vraiment aimé. Je vous souligne, ou je veux souligner, ce point très particulier et très important. Car il y a tellement de gens qui se laissent séduire par cette illusion des plus trompeuses et qui pensent à tort être vraiment croyants. On m'a raconté l'histoire d'un homme sincère qui, pour trouver la paix avec Dieu, avait classé tous ses péchés par rapport aux 10 commandements. Ne réussissant pas à trouver ainsi la paix avec Dieu, il est allé voir son pasteur pour lui en demander la raison. Ce dernier regarda toute la liste et lui dit, « Mon cher ami, je n'y vois nulle part une seule mention du péché d'incrédulité. Le Saint-Esprit seul peut nous convaincre et le Saint-Esprit seul peut nous convaincre de notre incrédulité et de nous faire comprendre qu'il nous manque la foi véritable. Car Jésus dit dans l'évangile de Saint-Jean, chapitre 16, versets 7 à 9, « Je vous enverrai le Consolateur, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce que il ne croit pas en moi. » Donc, Dieu vous a-t-il jamais montré que vous n'aviez pas la foi véritable? Vous a-t-il amené à être accablé par la dureté de votre cœur à cause de votre incrédulité? Et vous a-t-il montré votre incapacité à vous approcher de lui par vous-même? Vous a-t-il amené à l'implorer du fond de votre cœur? Seigneur, donne-moi la foi. Permets-moi de te saisir par la foi, de t'appeler mon Seigneur et de t'appeler mon Dieu. Jésus-Christ vous a-t-il jamais convaincu de cette façon-là? Sinon, n'essayez pas de tranquilliser votre cœur en vous disant que vous avez la paix avec Dieu. Puisse le Seigneur vous réveiller et vous accorder sa véritable paix avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce enfin tout? Eh bien non. Avant d'être en règle avec Dieu, l'homme doit effectivement être convaincu de son état de péché, de ses actes de péché, ainsi que du péché de ses bonnes actions elles-mêmes et de son incrédulité fondamentale. Il faut aussi que Dieu lui donne la capacité de se saisir de la justice du Seigneur Jésus-Christ, qui est parfaite et qui est pleinement suffisante pour le salut. C'est par la foi que cela se produit. Alors seulement cet homme aura enfin la paix. Il est dit dans Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà donc de quoi encourager quiconque est fatigué et chargé. Mais le repos n'est promis que à ceux qui viennent, à ceux qui croient et qui se confient en Christ seul. Avant d'avoir la paix avec Dieu, nous devons être justifiés par la foi en Christ. Il faut qu'une œuvre de grâce puisse s'accomplir dans le cœur et dans l'âme, afin que la justice de Christ devienne notre justice et que ses mérites soient imputés à notre âme. Avez-vous jamais épousé Jésus-Christ? Je dis cela spirituellement. S'est-il donné à vous? Et vous êtes-vous donné à lui par le moyen d'une foi vivante qui vous a fait sentir sa présence et entendre sa voix parler de paix à votre âme? Ça, c'est une telle foi qui vous assure que vous êtes véritablement enfant de Dieu. La paix a-t-elle inondé votre cœur comme un flot puissant? Avez-vous jamais expérimenté la paix dont Christ parlait à ses disciples? Je prie Dieu qu'il s'approche de vous et vous accorde cette paix-là. Il s'agit ici de réalités invisibles d'un autre monde, c'est-à-dire de la religion intérieure, c'est-à-dire de l'œuvre de Dieu dans le cœur d'un pauvre pécheur. Il s'agit de choses par lesquelles il faut absolument passer. C'est une question de grande importance qui vous concerne personnellement, vous et votre âme. Il y va donc de votre salut éternel. Se pourrait-il, chers amis, que la paix dont vous pensez jouir vienne du fait que que le diable vous a endormi par une fausse sécurité et un esprit de léthargie toute charnelle? Certainement, il essaye de vous garder dans cet état jusqu'à ce que vous vous éveilliez trop tard en enfer. Quelle épouvante en découvrant que vous vous êtes trompé. Le grand abîme s'est ouvert et comme l'homme riche, vous réclamerez pendant toute l'éternité une goutte d'eau pour rafraîchir votre langue, mais vous ne la trouverez pas. Saint Luc, chapitre 16. Chers amis, je vais boire une goutte d'eau pour pouvoir vous parler avec une voix nette. Chers amis, certains de mes auditeurs peuvent dire, par la grâce de Dieu, j'ai expérimenté ce don, vous venez de me parler maintenant. Dieu soit loué, il m'a convaincu de mes péchés et de mon état de péché. Il m'a fait prendre conscience de l'illusion de ma propre justice et de mon incrédulité et il m'a vraiment accablé pour mieux comprendre. Alors Dieu m'a maintenant uni à Jésus-Christ et je peux me reposer dans la paix du Seigneur car il m'a donné sa paix. Pouvez-vous, chers amis, vraiment dire cela? Alors je vous dis, comme Christ lui-même le dit aux femmes le jour de sa résurrection, il leur a dit « Ne craignez pas, vous avez en effet de quoi tranquilliser votre âme, car Dieu vous a donné sa paix. Si telle est la vérité pour vous, quoi que la providence divine place sur votre sentier, eh bien rien ne peut vous survenir qui ne soit pas une manifestation de l'amour de Dieu pour vous. Ne craignez plus les conflits extérieurs, puisque vous avez la paix dans le cœur. Êtes-vous maintenant unis à Jésus-Christ? Dieu est-il maintenant votre ami? Christ est-il votre ami? Alors, réjouissez-vous. Toutes choses sont à vous maintenant. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Toutes choses concourent donc à votre bien. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Il est dit que celui qui vous touche, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Zacharie chapitre 2 verset 8. Donc il ne peut pas vous arriver quelque chose, puisque vous l'avez compris, il est dit que celui qui vous ferait du mal, eh bien qu'il sache que vous représentez la prunelle de l'œil de Dieu. Zacharie chapitre 2, verset 8. Toutefois, prenez garde de ne pas vous reposer uniquement sur votre première expérience de la conversion. Vous qui êtes jeune dans la foi, cherchez à progresser continuellement dans la connaissance du Seigneur Jésus. Ne vous reposez pas sur des expériences du passé. Ne mettez pas votre confiance seulement sur ce qui se passe en vous, mais levez les regards continuellement vers la justice objective de Christ. Ne cessez pas de venir comme des pécheurs indigents, tirés de l'eau au puits du salut. Oublions ce qui est arrière, portez-vous continuellement vers ce qui est en avant. Demeurez dans une communion douce et étroite avec le Seigneur Jésus-Christ. On perd souvent la paix parce qu'on cesse de marcher en une communion vivante avec Christ. quelque chose d'autre s'interpose et prend la place de Dieu dans notre cœur, et nous plongeons dans l'obscurité. Le Saint-Esprit est attristé et il s'éloigne en nous abandonnant à nos propres ressources. Alors je vous exhorte, si vous possédez déjà la paix avec Dieu, à veiller surtout à ne pas la perdre. Veillez donc à ne jamais perdre cette paix. Il est bien vrai que si vous êtes vraiment en Christ, vous ne pouvez pas être finalement perdu, jamais. Car il est dit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourtant, il est possible de tomber gravement et d'avoir à marcher avec des os brisés. Prenez donc garde à ne pas retourner en arrière. Pour l'amour de Christ, n'attristez surtout pas le Saint-Esprit, car il se pourrait que vous ne retrouviez plus jamais votre paix ici-bas. Méfiez-vous d'une vie qui serait uniquement superficielle. Ne vous écartez pas de Dieu après être venu à Christ. Je vous assure que j'ai personnellement payé très cher mes égarements. Notre cœur est si mauvais que si nous n'y prenons pas garde, si nous ne veillons pas constamment, il nous égarera dans des chemins pernicieux. Il est extrêmement pénible d'avoir à subir le châtiment du Père. Prenez pour exemple sa façon d'agir avec Job, David et les autres saints dans la Sainte Bible. Si vous possédez déjà la paix avec Dieu, alors veillez à marcher en une étroite communion avec le Seigneur. Je m'attriste de voir la façon relâchée de vivre de beaucoup de chrétiens, de ceux qui ont déjà expérimenté la grâce de Dieu. Il y a si peu de différence entre leur vie à eux et celle des non-croyants qu'il est souvent très difficile de discerner lequel est le vrai chrétien. Combien de chrétiens ont peur de témoigner pour Dieu? Ils se laissent emporter par le courant. Quand ils sont en compagnie des gens du monde, ils parlent exactement des choses du monde, comme s'ils étaient eux-mêmes du monde. Ils n'auraient jamais agi ainsi au lendemain de leur conversion, jamais. Quand l'amour de Christ s'est révélé pour la première fois à eux, et quand sa lumière a inondé leur âme et leur esprit. Il fut un temps où ils n'hésitaient pas à parler avec assurance de l'amour de Dieu à leurs amis, car le Seigneur éclairait leur cœur et ils avaient quelque chose à dire au sujet de leur Rédempteur. Mais maintenant, maintenant, ils peuvent se tenir en compagnie de ceux qui parlent sans gêne des affaires du monde, et ils n'osent plus parler de celles de Dieu de peur qu'on se moque d'eux. Voyez-vous, ça c'est très grave. Si vous connaissez Christ à salut, eh bien je vous conjure, par amour pour lui, de rester près de lui. Si Dieu vous a donné sa paix, eh bien conservez-la, en fixant les yeux sans cesse sur Jésus-Christ. Si vous avez cette paix avec Dieu, ne craignez pas si vous passez par des tribulations. Toutes choses concourent à votre bien. Ne doutez pas lorsque vous êtes tenté, Car si la véritable paix de Dieu est dans votre cœur, toutes ces choses serviront à votre bien. Maintenant, voyons un peu ceux ou celui qui n'a pas la paix de Christ. Il s'agit probablement de la majorité dans le monde. Comme cette pensée m'attriste vraiment. Sondez votre cœur et en toute honnêteté, vous constaterez que vous n'avez pas la paix avec Dieu vraiment. Si Christ n'habite pas en vous, si Dieu ne vous a pas donné sa véritable paix, eh bien vous êtes encore un enfant du diable. Vous êtes dans une situation assez terrible. Je ne voudrais pas être à votre place pour tout l'or du monde, parce que vous n'êtes, pour ainsi dire, suspendu au-dessus de l'enfer. Quelle peut être votre paix quand Dieu est votre ennemi et que sa colère demeure sur vous? Réveillez-vous donc, s'il vous plaît, vous qui reposez dans une fausse paix. Vous faites profession d'être chrétien aujourd'hui. Vous fréquentez l'Église, recevez même les sacrements et vous lisez la Sainte Bible. Mais vous n'avez jamais expérimenté la puissance de Dieu dans votre cœur. Vous n'êtes qu'un païen qui a été baptisé quand il était enfant. Réveillez-vous et ne bâtissez pas sur du sable, s'il vous plaît. Christ, il est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Notez Romains, chapitre 10, verset 4. Chers amis, réveillez-vous donc, vous qui vous reposez dans la pratique de votre religion. Vous pensez ne manquer de rien, mais vous ne voyez pas que vous êtes pauvre, aveugle et nu devant Dieu. Venez à Christ. Il est tout ce qu'il vous faut pour le salut de votre âme. J'espère que quelques-uns d'entre vous sont troublés par mes paroles. Je demande à Dieu qu'elle n'aille pas, que cela ne soit pas tombé en vain dans votre conscience. Et je prie que le Seigneur parle à votre cœur, qu'il vous réveille de votre sommeil et de votre fausse sécurité et qu'il vous donne le désir de venir à Christ, que vous compreniez que vous avez bâti jusqu'à maintenant sur un fondement trompeur. Le diable va vous attaquer pour vous faire croire que vous ne trouverez jamais le salut de votre âme et la paix avec Dieu. Alors n'ayez crainte. Mes paroles sont motivées par l'amour et mes paroles visent seulement à vous réveiller et à vous amener à prendre conscience du danger que vous courez en restant dans votre état actuel. Si vous désirez vous réconcilier avec Dieu, il est prêt, de son côté, à se réconcilier avec vous. Oui, venez donc à Christ, vous qui n'avez pas encore la paix de Dieu dans votre cœur. Christ est notre paix, car ce n'est que par lui que l'homme coupable doit être réconcilié avec Dieu. Voulez-vous la paix avec Dieu ? Alors approchez-vous de lui par Christ. C'est par le sang qu'il a versé. Jésus a payé le prix qui procure la paix. C'est pour cela qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il intercède maintenant pour son peuple à la droite du Père. Il a dit « La paix soit avec vous ». Saint-Luc, chapitre 24, verset 36. Il leur montra ses mains et son côté, comme s'il leur disait, « Ne craignez pas, voyez mes mains, voyez mon côté, que l'on a percé pour vous, vous n'avez donc plus rien à craindre. » Puis il leur dit, « Allez l'annoncer à mes frères, et en particulier à ce pauvre apôtre Pierre, qui meurt de chagrin. Dites-leur que je suis ressuscité et que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Après sa résurrection, Christ est apparu à des disciples, à tous ses disciples, pour leur donner sa paix. Or, qui étaient ces hommes? Il l'avait abandonné à un moment donné, quand il avait le plus besoin de leur présence. Ils étaient tout autant, pour un temps, ennemis de Christ que vous et moi. Chers amis, je dis ces paroles à celui, seulement à celui qui s'est écarté de la bonne voie. Vous avez peut-être cessé de marcher en communion avec Dieu, c'était mon cas autrefois, et vous avez perdu votre sentiment de paix. Vous pensez que vous ne l'aurez plus jamais, car vous ne vous en considérez plus digne, et à juste titre, évidemment. Mais si vous êtes à Christ, Dieu a promis, il a promis, de pardonner vos infidélités et de déverser sur vous son amour. Dieu, notre Père, dit « Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Osée, chapitre 14, verset 4. Et maintenant, si mes paroles vous ont touché, chers amis, si Dieu a mis dans votre cœur le désir de vous approcher de Christ, je vous exhorte à le faire sans hésiter. Vous voulez peut-être commencer par vous revêtir de vos bonnes œuvres et de votre propre justice. Or, ce ne sont pas des choses qui vont faire un poids certain. Il est dit dans Ésaïe 64, verset 5, « Ce sont que des vêtements souillés aux yeux de Dieu. » Non, non, non. Rejetez donc ces haillons dégoûtants et venez tout nus, tels que vous êtes. D'autres diront, « Oh, je veux bien venir, mais mon cœur est si dur. » Ne savez-vous donc pas que ce cœur ne sera jamais adouci tant que vous ne vous approcherez pas de Christ? Il ôtera votre cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Il versera la paix dans votre âme et il sera lui-même votre paix, lors même que vous l'avez trahi. Comment puis-je vous convaincre tous de venir à Christ aujourd'hui? Chacun de nous va bientôt quitter ce monde, oh oui, pour comparaître devant Dieu et être jugé. Aujourd'hui, demain, qui sait, quand on amènera votre dépouille mortelle au cimetière, qu'adviendra-t-il alors de vous si vous n'avez pas la paix avec Dieu, si la paix de Christ n'habite pas dans votre cœur, si vous n'avez pas cette paix en ce monde? Eh bien, vous connaîtrez la damnation pour l'éternité. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, est-il dit. Et il ne leur arrive aucun malheur à ceux-là. C'est écrit dans le psaume 119, verset 165. Mais évidemment, il n'y a point de paix pour ceux qui sont méchants et pour ceux qui ont abandonné la voie de Dieu. Moi aussi, chers amis, j'ai connu le péché dans ma vie et j'en ai honte. Je m'y suis réfugié pour essayer d'étouffer la voix de Dieu dans mon cœur. Ne soyez pas tentés de faire de même en cherchant à vous perdre dans la foule pour échapper aux exigences de Dieu. Il vaut mieux aller tout de suite au fond des choses pour ne pas connaître une perdition éternelle. S'il s'agissait d'une question sans grande importance, je ne prendrais pas la peine de vous en parler du tout, mais vous serez éternellement perdus si vous ne possédez pas le salut qui est en Christ, car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Je ne peux pas supporter l'idée que vous irez en enfer, car je vous aime beaucoup trop. Désirez-vous, chers amis, être condamnés pour cela? La pensée de passer toute l'éternité en compagnie de Satan ne vous révolte-t-elle pas? Ne vaut-il pas infiniment mieux éprouver les douleurs de l'âme ici-bas que d'être envoyé par Christ pour toujours en enfer? L'enfer tient éternellement séparé de Christ, ce qui est déjà assez horrible, mais c'est aussi les tourments éternels subis en compagnie du diable. Mettez-vous donc, s'il vous plaît, en règle avec Dieu pour recevoir sa paix. Je vous en conjure, moi qui ne suis qu'un piètre ambassadeur de Jésus-Christ, je vous dis, soyez réconciliés avec Dieu. J'ai pour mission de vous affirmer que si quelqu'un veut se réconcilier avec Jésus-Christ, alors il pardonnera tous les péchés de cet homme, de cette femme, et il effacera toutes ses transgressions. Mais si vous choisissez de continuer à mener une vie de rébellion et à l'offenser sans cesse, si vous préférez lui tourner le dos, alors sachez que la colère de Dieu s'abattra sur vous. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Si vous ne voulez pas avoir la paix avec Dieu, alors sachez qu'il ne sera pas non plus en paix avec vous. Qui peut résister à Dieu quand sa colère éclate? Psaume 76, verset 8. Donc, psaume 76, verset 8. C'est une chose terrible que d'avoir à subir sa colère. Lorsque les soldats sont venus pour arrêter Jésus, Jésus s'avança et leur demanda « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit « C'est moi. » Lorsque Jésus leur a dit cela, « C'est moi », tous les hommes qui sont venus contre lui ont reculé et ils sont tombés par terre. Notez Saint Jean chapitre 18, versets 4 à 6. S'il ne pouvait pas tenir ces hommes devant lui, devant Jésus, alors qu'ils étaient revêtus d'un corps humain, qui le pourra, chers amis, quand il faudra comparaître devant lui, assis sur le trône de son Père dans la gloire. Voici ces pauvres misérables, au jour du jugement, tout tremblant devant Christ, assis sur le trône de jugement, suppliant montagnes et rochers de les ensevelir pour les cacher de la colère de Dieu. Ils comparaissent devant lui pour le contempler une dernière fois et entendre la sentence terrible et irrévocable. Il a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui êtes maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Seigneur, supplie ces damnés. Si nous devons être condamnés, eh bien qu'un ange prononce la sentence, c'est ce qu'ils ont demandé à Dieu. Hélas, non. C'est le Dieu d'amour, c'est Jésus-Christ qui va prononcer lui-même la sentence. Vous ne me croyez peut-être pas. Ne pensez pas que je raconte n'importe quoi. Je vous annonce ce que disent les Saintes Écritures. Aujourd'hui même, par la grâce de Dieu, tournez-vous vers Christ et attachez-vous à lui par la foi. Que Dieu ne donne pas de repos à votre âme avant que vous vous reposiez en Christ. N'aspirez-vous pas à avoir un corps nouveau, immortel et semblable au corps glorieux de Christ et à demeurer dans la présence de Dieu en parlant de Jésus pendant toute l'éternité? J'espère que Dieu utilisera ce que j'ai dit pour amener des pécheurs à Christ, qu'il vous convaincra, vous qui êtes toujours dans votre péché, pour que vous vous détourniez de vos mauvaises voies et que l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse votre cœur. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Christ et pour son honneur. Chers auditeurs, s'il vous plaît, écoutez encore le CD numéro 4 et 5, car ces 4 CD, ou ces 5, il faut voir si j'y arrive, ces études se complètent tous et sont de ce fait absolument indispensables. Alors je vous propose, je vous demande solennellement de continuer d'écouter la série, s'il vous plaît. Je vous aime, c'est pour ça que je vous dis cela. Je vous aime de tout mon cœur. Et maintenant, prions. Seigneur notre Dieu, si chaque jour nous devons te bénir d'avoir veillé sur nous pendant la nuit et de nous avoir persévéré, préservé de tout danger, combien plus ne devons-nous pas te rendre grâce pour ta miséricorde et pour ta protection envers nous dans ces temps d'épreuve. Seigneur, tu as visité par la cruelle maladie, par le deuil, un grand nombre d'êtres et de familles, tandis que nous avons joui d'un sommeil paisible et nous nous sommes réveillés en paix et en bonne santé. À qui le devons-nous? Que à toi, à ta bonté, à ta patience envers nous. Pourrions-nous nous plaindre, mon Dieu, si comme tant d'autres, tu nous appelais à souffrir aussi? Ne l'aurions-nous pas mérité, vraiment? Mais tu nous traites selon tes compassions et non pas selon notre indignité. Ne permets pas, ô Seigneur, que nous laissions passer sans savoir en profiter pour notre salut ces jours de grâce que tu nous accordes maintenant. Ne permets pas que nous puissions oublier tout ce qu'ils ont de solennel et d'important pour nous, car tu nous demanderas compte de tous les avertissements que tu nous auras donnés. Au jour de ton jugement, la légèreté, l'indifférence, l'endurcissement de cœur que nous aurons pu manifester pendant cette épreuve, nous serons condamnés par ta sainte parole. Remplis donc notre âme de compassion, de sympathie pour tous ceux qui souffrent. Accorde-nous plus de confiance en toi, Seigneur, et pour toutes ces choses, donne-nous une foi vive, solide, sincère et inébranlable en Jésus, notre unique Sauveur, ton Fils, ton image visible, puisque c'est en lui seul que se trouve la vie éternelle, c'est en lui seul que se trouve notre paix. Nous t'implorons les mêmes grâces pour chacune des personnes composant nos familles, pour nos amis et pour tant d'âmes qui ne te connaissent point encore et qui vivent éloignées de toi, sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Ô Seigneur, que nos âmes se tiennent en repos, regardons à toi seul, car ton pouvoir est en toi uniquement, car tous ceux qui t'attendent éternel, qui répandent de nouvelles forces, ils courent et ne se fatiguent jamais, ils marchent et ne se lassent jamais, et lorsque ils t'invoquent au jour de leur détresse, eh bien tu les délivreras. Seigneur notre Dieu, exauce notre prière par le saint nom et pour l'amour du Sauveur que tu nous as donné. Amen. Amen. Et chers amis, sachez que Dieu vous aime et je vous aime. Et je vous embrasse tous. Soyez bénis. Au revoir.